Je suis révolté. Je viens d'apprendre par un simple communiqué de presse que Ford refusait l'offre de reprise de Punch sur l'usine de Blanquefort à Bordeaux. Je suis révolté. Je suis écœuré par cette décision qui ne se justifie que par la volonté de Ford de faire monter son cours de bourse. Je veux dénoncer la lâcheté de Ford, à qui je demande de parler depuis 3 jours et qui n'a même pas eu le courage de prendre le ministre de l'Économie et des Finances au téléphone.
Ainsi parle Bruno Le Maire. Bon, depuis jeudi, le ministre a eu Stephen Armstrong, le patron de Ford Europe, au téléphone. Là aussi, les difficultés ne datent pas d'hier. Ford ne veut pas du projet de reprise. Le constructeur aimerait juste fermer et partir 850 salariés à Blanquefort. Et un ministre qui met en scène sa colère, révolté, écœuré, mais a-t-il les moyens de peser ? Que peut l'État ? Engager le bras de fer, mettre des bâtons dans les roues, oui. Obliger à accepter le projet du repreneur, interdire la fermeture, non. Récupérer l'argent public, possible, s'il y avait un accord et que les conditions n'ont pas été respectées. Alors, nationaliser, ça on l'a déjà vu, temporairement, les chantiers de Saint-Nazaire par exemple. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui dans l'industrie automobile, Ford n'est pas la seule usine en difficulté. Avec la chute du diesel, ça va même s'accentuer. Et la nationalisation, elle a donc un accueil d'abord politique, c'est la question boomerang. Pourquoi eux et pas nous ?
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue dans le Mag Echo, une émission réalisée par Coy Nguyen. Valentin Pérez est attaché de production. Et à la technique ce matin, c'est Guillaume Roux qui nous accompagne. Samedi 15 décembre, cinquième samedi pour les Gilets jaunes. À quoi ressemblera la mobilisation? Ça en fera le bilan ce soir. Ce matin, nous avons choisi de revenir sur les annonces d'Emmanuel Macron. Concédées aux Gilets jaunes, le SMIC, les heures sup, la prime exceptionnelle, la CSG. Le message était extrêmement clair, extrêmement simple, 13 minutes. Et maintenant, le diable est dans les détails. On va décortiquer tout ça avec un débat grand format. Je salue dans ce débat l'invité, Valérie Rabault. Bonjour Valérie Rabault.
Bonjour.
Vous êtes députée socialiste, vous êtes même la présidente du groupe PS à l'Assemblée. Vous êtes surtout une des députées qui connaît le budget et ses ficelles sur le bout des doigts. Mais j'ai vu que vous réagissiez à Ford, au billet sur Ford.
Mais oui, oui. Non, parce que la mise en scène de Bruno Le Maire est juste ridicule. La loi dit très clairement les choses, je vais vous lire l'article. L'entreprise est tenue d'examiner les offres des reprises et d'apporter une réponse motivée à chaque offre reçue. Le ministre nous parle d'un communiqué de presse, mais il a qu'à faire appliquer la loi. Il saisit le tribunal, il demande d'avoir l'examen de chacune des offres reçues, en tout cas de l'offre qui a été adressée à Ford, et d'avoir une réponse détaillée. S'il se contente d'un pauvre communiqué de presse, il a beau ne pas être content, ça ne changera rien. On lui demande d'être ministre, on lui demande pas d'être un ministre pas content. On lui demande d'être un ministre qui agit, il n'a qu'à saisir le tribunal pour dire à Ford, vous devez appliquer en France la loi française. Je rappelle qu'il avait déjà fait œuvre de faiblesse au mois de juin dernier, lorsque General Electric, qui a récupéré des activités d'Alstom sous condition, qui avait promis de créer 1000 emplois en France, a annoncé qu'il ne pourrait pas créer ces 1000 emplois, et qu'a fait le ministre de l'Économie ? Rien. Alors que la loi lui autorisait à dire il y avait une pénalité de 50 000 euros par emploi non créé. Donc je lui écris le 14 juin dernier, pas de réponse. Donc il fait œuvre de faiblesse et il semble s'en émouvoir. Oui, il s'en émeut, c'est très bien, mais c'est pas ce qu'on lui demande.
Bon, je fais pas la communication qu'on agit du ministère, mais je crois qu'il va faire payer la note des malheureusement les gens vont perdre leur emploi ou les emplois n'ont pas été créés. Il y aura une note de payer.
Enfin, c'est surtout que les promesses ne valent que pour ceux qui les écoutent, et c'est encore plus vrai
mais
entre les entreprises et l'État.
C'est un contrat, Emmanuel Lechypre.
Il pourra toujours justifier.
Toutes ces grandes entreprises sont habituées à signer des contrats. Si aujourd'hui elles disent,
l'État se fait systématiquement avoir par les entreprises.
Ça pose un petit problème.
Si l'État peut croire qu'il est puissant, etc.,
mais
c'est
vous
pas
l'avez
vrai.
Vu, la lettre
Regardez.
De Ford. Vous l'avez vu la lettre de Ford?
Non.
Donc, regardez comment Agnès Buzyn découvre cette semaine que finalement les mutuelles vont augmenter leur prix comme tout le monde le prévoyait. Donc c'est quand même une naïveté incroyable de
Là il y a naïveté, mais quand il y a un contrat signé entre une entreprise et l'État, mais je suis d'accord avec vous sur la faiblesse de l'État en matière de contrats signés avec des grandes entreprises, l'État est censé faire appliquer la loi. Ça paraît quand même être le minimum.
Alors je salue Emmanuel Lechypre.
Bonjour à tous.
et Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. On va donc faire ce débat, grand format, avec Valérie Rabault, la secrétaire de la commission, secrétaire de la commission des finances, dans un instant. Et que peuvent les chefs d'entreprise dans la crise des gilets jaunes? Quel impact sur l'économie? Régis Schultz, le patron de Monoprix, le président de Monoprix, sera avec nous dans une demi-heure. Sandrine Foulon, bonjour à vous.
Bonjour Alexandra.
C'est Pauline qui vous a écrit dans la boîte aux lettres, on n'arrête pas l'écho, une question justement sur les mutuelles.
Oui, mais pas sur le prix des mutuelles. Pauline veut savoir si elle est absolument obligée d'adhérer à la mutuelle que lui propose son employeur.
On se retrouve juste avant 10h pour la réponse. Tout de suite, les annonces d'Emmanuel Macron et trois questions à 10 milliards au moins.
Décembre 2018.
Française, Français.
Emmanuel Macron.
C'est d'abord l'état d'urgence économique et sociale que je veux décréter aujourd'hui. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur.
C'est 100 euros pour le SMIC.
Fabien Roussel.
C'est les Français qui vont le payer, c'est une énorme escroquerie quand même.
Secrétaire national du PCF.
C'est via la prime d'activité que cette hausse du SMIC va être réalisée. Ça va laisser sur le banc d'abord tous les salariés qui sont au-dessus du SMIC et qui ont quand même des bas salaires.
C'est pas une augmentation du SMIC.
Laurent Berger.
Il y a une augmentation du SMIC par la revalorisation du SMIC de 1,8% et le reste, c'est une augmentation de la prime d'activité.
Secrétaire général de la CFDT.
Mais ceci étant, les gens qui sont au SMIC auront réellement 100 euros de plus. Donc ça, un syndicaliste, il va pas dire que c'est négligeable.
Je veux renouer avec une idée juste. Que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019.
C'est un retour vers le futur.
Olivier Faure.
Vous allez, c'est vrai, y gagner quelques soutiens à droite.
Premier secrétaire du PS.
Comment les Républicains ne pourraient-ils pas saluer des mesures qui sont en réalité made in Nicolas Sarkozy? Il fallait que tout change pour que rien ne change.
Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés.
Les réponses de ce soir.
Éric Woerth.
Donc leur part d'injustice.
Député LR.
La prime de fin d'année que l'on demande aux employeurs de verser, certains employeurs ne pourront pas la verser. Ce sera injuste vis-à-vis de ceux qui ne pourront pas la toucher.
Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année.
Pour les retraités, je dirais qu'en soi, c'est une bonne nouvelle.
Laetitia Deval.
Maintenant, il faudrait peut-être faire une réindexation également par rapport à la croissance du pays.
Gilets jaunes de Seine-Maritime.
Faut creuser encore un petit peu plus
vous dites, c'est
à
une
ce
bonne
niveau-là.
Nouvelle, mais c'est pas
assez. Voilà, faut encore faire un peu plus.
Je suis pas certain que les annonces d'aujourd'hui vont tout calmer.
Aïk Chahinian.
Il y a quelque chose qui a basculé dans l'esprit des gens.
Gilets jaunes de Seine-Maritime.
Ils se rendent compte qu'ils n'ont plus envie qu'on leur dise « Eh bien, on a décidé de vous donner quelque chose comme des miettes. » Les gens aujourd'hui veulent reprendre en main la gestion de leur pays.
Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Vive la République. Vive la France.
Emmanuel Le Chip, je me tourne vers vous. Oui, je me tourne vers vous.
Avec plaisir,
avec ces annonces... Est-ce qu'il va y avoir... Qui seront les élus? En fait, il y a eu une annonce globale, un message simple, mais c'est compliqué quand même. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir beaucoup de déçus? Qui sera... Sait-on qui va bénéficier des mesures annoncées?
Alors, oui, il risque d'y avoir beaucoup de déçus, parce que finalement, d'abord, Emmanuel Macron, finalement, il ne lâche pas grand-chose par rapport à sa stratégie. D'abord, il préserve les acquis de ses grandes réformes qui consistaient à dire il faut redonner de la compétitivité aux entreprises. Donc, c'était quoi? C'était pas de hausse du SMIC et baisse de la fiscalité sur le capital. Ça, c'est maintenu. Après, qu'est-ce qu'il donne de plus que ce qu'il avait promis? Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en gros, il avait promis, d'ici la fin du quinquennat, un 13e mois pour les salariés au niveau du SMIC. Bah, au lieu que ce soit 2022, ce sera plutôt 2020. Le seul vrai geste qui fait vraiment, c'est quand même pour ces retraités, et c'est vrai que le curseur avait sans doute été placé à un niveau assez dur, hein, 1200 euros de revenus par mois pour subir la hausse de la CSG, c'était quand même très difficile. Là, il desserre un peu l'étau sur les retraités, mais attention, 2000 euros, c'est pas 2000 euros de pension, hein, c'est 2000 euros de revenus. C'est-à-dire que si vous êtes retraité avec 1300 euros de pension, que vous avez des revenus liés parce que vous avez un petit bien immobilier, etc., vous ne serez pas exonéré de cette hausse de la CSG. Et pour 2019, le point le plus sensible, c'est quand même d'abord cette prime que vont distribuer les entreprises. On voit bien que là déjà, c'est un peu le festival de la générosité dans les entreprises du CAC 40 qui annoncent toutes qu'elles vont distribuer des primes. mais quid des entreprises qui font pas de bénéfices dans les petites entreprises? Donc vous allez accroître l'écart entre déjà ceux qui sont finalement les grands gagnants des 30 dernières années, qui sont les salariés des grands groupes, hein, ceux qui profitent des 35 heures, ceux qui ont de l'intéressement, de la participation, ceux qui ont des CE de compétition, etc., etc. Et les petits salariés. Et puis la grosse déception, ce sera pour ces fameux salariés au niveau du SMIC qui doivent toucher 100 euros de plus par mois. Parce que là, concrètement, si on pense que c'est par la prime d'activité, ce qu'on n'a pas détaillé le président de la République,
on va demander à Valérie
si on pense
Rabeau.
Que c'est par la prime d'activité, bah il y a que un tiers seulement de ces salariés au SMIC qui touchent la prime d'activité, qui, rappelons-le, est une prestation liée à votre famille. Donc là, il risque d'y avoir beaucoup de déceptions. Et puis enfin, les heures supplémentaires, oui, ça va profiter à beaucoup de salariés. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation sur le marché du travail dans lequel il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire que les entreprises ont du mal à recruter. Donc elles vont solliciter au maximum les salariés qu'elles ont déjà. Donc oui, ça va payer. Ça avait profité à 9 millions de personnes sous Nicolas Sarkozy et ça avait rapporté à peu près à chacun 500 euros par an.
Valérie Rabeau, je me tourne vers vous, évidemment, en commission des finances. Vous avez regardé. On a l'impression que les annonces ont été faites. Enfin, on sait les annonces ont été faites. Mais derrière, l'intendance a du mal à suivre. C'est pour ça qu'on a du mal à dire qui va être bénéficiaire.
Oui, alors l'intendance, c'est pas qu'elle a du mal à suivre, c'est qu'elle est aux abonnés absents aujourd'hui. Parce que Emmanuel Le Chipre a très bien. La seule chose qui est précise, ça concerne les retraités. Et effectivement, la hausse de la CSG, nous l'avions dénoncée il y a 18 mois, il y a encore 6 mois, l'appliquer à partir de 1280 euros pour un retraité célibataire, c'était inacceptable. Nous, nous avions proposé que la hausse de la CSG ne s'applique qu'au-delà de 3000 euros. Pourquoi 3000 euros ? Parce que ça permet de payer une maison de retraite médicalisée en région parisienne. Et que nous disions qu'il fallait pas toucher au montant de pension qui permet de payer une maison de retraite médicalisée. Et là où elles sont les plus chères, c'est en région parisienne. Tout le reste.
C'est-à-dire le SMIC à 100,
le SMIC, les 100 euros. Les 100 euros, même les défiscalisations, etc.
Des heures
tout le reste,
oui.
Et qui va payer? Tout le reste, c'est du grand flou artistique. Et c'est inacceptable. Parce que là, le gouvernement joue avec des annonces qui peuvent susciter des espoirs auprès des Français et beaucoup seront déçus. Encore une fois, en passant par la prime d'activité, Emmanuel Le Chipre dit qu'il y a environ un tiers des personnes au SMIC qui perçoivent la prime d'activité. C'est sans doute plutôt un quart qu'un tiers.
27% exactement.
27%. Donc c'est plutôt un quart qu'un tiers. C'est plutôt un quart qu'un tiers. Et donc, on est dans une situation où vous aurez 75% des personnes au SMIC qui n'auront pas de revalorisation via la prime d'activité.
Donc, est-ce qu'ils sont pas justement vous qui...
Mais
ils sont en train... Bercy est en train de chercher d'autres manières de faire en sorte que ces 100 euros se voient. On en est là ?
Faire du bricolage à 10 milliards d'euros.
Mais est-ce que pour une fois, Valérie Rabeau, c'est pas logique que l'intendance suive ? C'est-à-dire, est-ce que d'habitude c'est Bercy qui fixe ses contours, qui dit ça c'est possible, ça c'est pas possible, et le ministre qui dit bah on va faire ça. Là, est-ce que c'est pas normal que le président dise moi je veux ça et Bercy vous vous débrouillez pour me trouver une solution pour que au SMIC chacun ait 100 euros.
On est d'accord. Sur ce point-là, on est d'accord.
Valérie
Sauf que
Rabeau.
Quand le président parle, il faut que cette intendance-là, elle ait été faite.
Ah oui.
Et là, il arrive avec rien de prêt.
Ça doit être prêt pour mercredi prochain, c'est ça ?
Non, mais mercredi prochain.
C'est le Conseil des ministres.
Mais mercredi prochain, mais même ça doit être prêt pour lundi. Lundi, on est censé voter l'article d'équilibre. Alors, je sais que c'est de la cuisine parlementaire, etc. Mais enfin, c'est quand même cet article qui dit où se situe le budget de l'État. Et ils vont faire un vote avant d'avoir mis les mesures. Mais tout ça, c'est de l'insincérité, mais puissance 10. Puissance 10. Encore une fois, c'est du bricolage qui est inacceptable parce que ça concerne la vie de tous les jours des Français, ça concerne leur pouvoir d'achat et ça concerne aussi la manière dont la France se gère. Franchement, c'est du bricolage.
Alors, mais pour ceux qui... Il y aura une solution, on imagine qu'il y aura une solution. Pour ceux qui seront impactés par ces mesures, est-ce que ça va être... Est-ce que c'est un geste dans l'esprit de l'exécutif pour... Qui veut toucher ? Les classes populaires ?
Les retraités. On revient quand même à la situation d'avant Emmanuel Macron. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on a un cadeau alors qu'on revient, on annule une hausse de CSG
Uniquement pour ceux qui ont moins de 2000 euros.
Exactement, uniquement pour ceux-là.
Et uniquement pour 2019.
Ça c'est pas clair. Est-ce que c'est pour toujours ou juste pour une année? Si c'est juste pour une année, on va se prévoir d'autres gilets jaunes l'année prochaine. Les smicards, faut dire un peu qui c'est quand même. C'est les jeunes, c'est majoritairement quand même des gens de plus de 40 ans, c'est des femmes à temps partiel. Voilà, c'est ces gens-là qui vont, s'ils arrivent à trouver une solution pour les 100 euros, ces gens-là qui vont en profiter. Puis les derniers gagnants, c'est quand même les très riches. hein, puisqu'Emmanuel Macron n'a pas remis en cause la suppression partielle de l'ISF, il n'a pas remis en cause la diminution de la taxation du capital. Il y a des idées qui circulaient à Bercy, on entendait venir depuis Bercy, peut-être pas du côté de Bruno Le Maire, du côté de l'autre côté de Bercy.
C'est-à-dire Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics.
On entendait par là les bruits de couloir, on nous disait on pourrait peut-être faire une tranche supplémentaire pour les plus hauts revenus, ou alors pas de tranche supplémentaire parce que c'est pas bon en termes de communication, mais on pourrait abaisser les seuils à partir desquels on rentre dans les tranches supplémentaires. Tout ça a complètement disparu, et donc il n'y a aucune mesure de justice fiscale.
Alors, en même temps, Valérie Rabault, vous en avez parlé, vous avez dit c'est 10 milliards, on va creuser ça. Mais est-ce que, même si on prenait juste ce chiffre de 10 milliards, qui sera sans doute plus lourd, le montant, la facture, est-ce que ça n'est pas, en macro, le plus gros geste fait pour les ménages depuis 10 ans ?
Ah non. Non. Le plus gros geste en macro fait pour les ménages, c'était sous le quinquennat de François Hollande, sous la baisse de l'impôt sur le revenu. Vous citiez...
Qui avait beaucoup augmenté, cependant.
Non. Vous étiez un célibataire en 2012. Vous commenciez à payer de l'impôt sur le revenu si vous aviez 13 000 euros de revenus. Aujourd'hui, vous commencez à payer de l'impôt sur le revenu si vous avez 17 000 euros de revenus. Donc, toutes les personnes entre 13 et 17 000 ne payent plus d'impôt sur le revenu. Vous êtes un ménage avec deux parents, deux enfants. Vous commenciez à payer en 2012 dans l'impôt sur le revenu si votre foyer avait 27 000 euros de revenus. Là, vous commencez à en payer si vous avez 40 000 euros de revenus.
D'accord.
Donc ça vous fait entre 500 et 600 euros pour toutes ces personnes-là qui ont payé avant et qui n'en payent plus aujourd'hui d'économie d'impôt sur le revenu. Ça, c'était un vrai geste et de justice fiscale parce que ça concernait des ménages qui ont des revenus qui sont, c'est des classes moyennes qui, pas des grandes classes moyennes, mais donc ça, ce public-là avait vraiment bénéficié des mesures de baisse de l'impôt.
Au détriment de la classe moyenne supérieure
que vous voudriez sur le revenu.
Renseigner à nouveau.
Et je
avec
suis d'accord avec ce que dit. Non, mais Emmanuel Le Chypre a raison. La classe moyenne supérieure, elle, du fait du quotient familial, a payé plus d'impôts. Mais il y a eu des choix qui ont été faits. Là, ce que Emmanuel Macron fait, c'est qu'il dit je maintiens tous les avantages. Et encore une fois, vous avez 1% des Français qui vont récupérer par l'ISF, l'équivalent de, en moyenne de 71 000 euros par personne sur le quinquennat. Et ça, le président de la République n'y touche pas. Donc quand vous dites 10 milliards d'euros, ça, c'est une divergence que j'ai évidemment avec Emmanuel Le Chypre.
Donc
10 milliards d'euros
pour les ménages.
Pour les ménages aujourd'hui, c'est effectivement un montant significatif, mais vous oubliez tout ce qui a été pris avant. La fiscalité énergétique sur les ménages, ça prenait 55 milliards sur le quinquennat. 55. Alors on voulait le faire de manière cachée. La hausse de la CSG pour les retraités, les montants étaient plus de 3 milliards, des montants significatifs. Donc c'est un rééquilibrage en faveur des ménages, mais ce n'est pas un rééquilibrage en faveur de la justice fiscale.
Emmanuel Le Chypre.
Je dis heureusement qu'il a pas touché à, on va pas refaire en deux minutes le débat à la fois sur l'ISF, le SMIC, etc. Mais grosso modo, retenez que, et encore l'étude de PricewaterhouseCoopers cette semaine, la fiscalité sur les entreprises françaises était la plus élevée. Encore une fois, rappelons-nous d'où on vient. Le plus haut niveau de dépenses publiques, le plus haut niveau de prélèvements obligatoires, les entreprises les plus prélevées du monde et deux fois moins d'entreprises de taille intermédiaire qu'un pays comme l'Allemagne. Or, ce sont elles qui créent les emplois. Interrogeons-nous juste sur pourquoi on en est arrivé là. Donc, c'est certainement pas la solution de taxer davantage encore les riches. De toute façon, le mal est fait, puisque sur l'ISF, vous avez à nouveau, quand vous regardez tous les capteurs, vous savez, de l'exil fiscal, etc., il y avait des gens qui avaient envie de revenir, qui ne reviendront pas. Il y avait des gens qui pensent à nouveau à partir. Et vous avez des boîtes qui n'investiront pas en France. Le problème, c'est que, comme toujours, personne ne dira rien, puisque, évidemment, par définition, une usine qui ne se crée pas ou un emploi qui ne se crée pas, ça ne se voit pas. Donc, on ne sait pas ce qu'on a perdu. Mais ça commence déjà à nouveau nous coûter un peu cher.
On va pas refaire le débat sur les justices fiscales avec les 0,2% des assujettis à l'ISF qui partent à l'étranger.
Oui, on a un petit problème de chiffrage quand même. Oui.
Mais c'est vraiment une stratégie. Non, l'État va distribuer du pouvoir d'achat aux gens qui ont peu de pouvoir d'achat. Donc ça va plutôt dans le bon sens, mais il va en récupérer une partie. Hein, puisque il faut rappeler que le premier impôt payé par les Français, c'est la TVA. D'accord, c'est 16% du total des prélèvements obligatoires. Les gens, comme on distribue du pouvoir d'achat à des gens qui ont plutôt des bas revenus, ils vont plutôt le consommer, ils ne vont pas l'épargner. Mais ils vont repayer de la TVA. Donc l'État va récupérer une partie. Il faudra aussi mesurer l'impact sur le commerce extérieur. Est-ce qu'on achète des biens produits en France ou des biens produits à l'étranger pour avoir l'impact sur la croissance ? L'encouragement fiscal aux heures supplémentaires, ça va avoir deux effets très négatifs. De l'optimisation fiscale individuelle. Je vais m'accorder avec mon employeur pour dire mes heures-là, ce n'est pas des vraies heures, c'est des heures supplémentaires pour bénéficier de la défiscalisation. Ça s'est fait sous Sarkozy. Ça va de nouveau se faire là.
Mais ça avait beaucoup bénéficié aux ouvriers, etc. à des catégories modestes.
Oui, mais pas aux recettes de l'État. C'est bien, tant mieux. Mais c'est pour les mêmes heures de travail, on va gruger le fisc. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, contrairement à Emmanuel, je pense qu'on est loin du plein emploi. Et les gens de l'OFCE nous disent qu'on va perdre à peu près l'équivalent de 19 000 emplois sur le reste du quinquennat en augmentant les heures supplémentaires. Comment ça va être financé tout ça? Parce que ça, on ne sait pas. Est-ce qu'on va faire des économies par ailleurs? Donc ce qu'on donne d'un côté, on va le retirer de l'autre. Ça ne va pas être très bon pour l'activité et pour les revenus en France. Ou est-ce qu'on va laisser filer le déficit? Parce que pourquoi on laisserait filer le déficit et la dette? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais emprunté à un taux d'intérêt aussi faible et qu'il n'y a aucune perspective de remonter des taux d'intérêt à moyen terme. Donc autant le faire.
Non, mais il y a des gens qui proposent d'ailleurs. Pourquoi ne pas refaire un grand emprunt, par exemple?
Ça marche pas, les grands emprunts nationaux. Par contre, on a 20 milliards de souscription, plus les 20 milliards de baisse des cotisations.
Alors, souscription volontaire et souscription obligatoire pour les plus revenus.
Alors, messieurs, vous savez, Valérie Rabault, qui est secrétaire de la commission des finances, elle doit pouvoir nous dire un petit peu sur la facture, déjà.
Vous savez, je voudrais répondre à ce qui vient d'être dit sur les heures supplémentaires. Vous savez, le diable est toujours dans le détail. Quand il y a des exonérations à la sécurité sociale sur les cotisations, jusqu'à présent, c'était l'État qui payait. Faisait un chèque à la Sécurité sociale pour le rembourser du montant. Là, depuis le 1er janvier 2019, ce ne sera pas remboursé par l'État. Donc ça veut dire que qui va payer? La Sécurité sociale. Comment va-t-elle le financer? Est-ce qu'elle va baisser l'investissement dans les hôpitaux? Est-ce qu'elle va baisser des remboursements? Tout ça. Plus il y aura d'heures supplémentaires, plus la Sécurité sociale devra baisser ses dépenses. C'est mécanique, tout simplement parce que l'État leur a dit « maintenant, c'est moi qui prends la décision d'avoir une exonération sur les heures supplémentaires, mais débrouillez-vous avec la facture. Débrouillez-vous avec la facture. » C'est, encore une fois, c'est contraire à une loi organique qui existe en France qui fait que quand l'État prend une décision, il rembourse à la Sécurité sociale. Et bien là, la majorité a voté une loi en disant « à partir du 1er janvier 2019, on ne remboursera plus à la Sécurité sociale. Qu'elle se débrouille. »
Donc qu'est-ce qui va se passer?
Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir qu'elle trouve 1,7 milliard d'économies si la désocialisation est ce coup-là. Et s'il est supérieur, il faudra qu'elle trouve autant d'économies que ce que lui aura coûté la désocialisation des heures supplémentaires.
Impact qu'on avait effectivement peut-être pas assez vu. Emmanuel Le Chip sur la facture, 10 milliards, c'est
alors, ce sera plus que ça.
Ce sera plus que la prochaine basse.
Encore une fois, tout le monde est parti au quart de tour cette semaine sur cette idée que c'était la prime d'activité qui allait permettre de compenser, de fabriquer une grosse partie des 100 euros d'augmentation de pouvoir d'achat. Mais encore une fois, on n'est pas du tout sûr. Il y a quand même un truc qui était frappant, c'est que dans les estimations premières fournies par l'Élysée, ce qui paraît être la mesure la plus spectaculaire, c'est-à-dire ces 100 euros de pouvoir d'achat en plus pour les smicards, ça coûtait que 500 millions d'euros. Donc à un moment, vous vous dites, mais attendez, il est où le loup? C'est rien. Donc quand vous mettez bout à bout les 4 milliards et demi,
tout de suite, on a du mal à faire les calculs.
Annoncé sur les carburants, plus tout ce qu'on a dit sur déjà, ça va être plus que 10 milliards.
Et ça va se décider, ça va se discuter à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault?
Alors, à minima lundi et sans doute mercredi, puisqu'il va y avoir un projet de loi à présenter en Conseil des ministres qui va se discuter en deux jours. Vous voyez, 10 milliards, deux jours, 10 minutes, 10 milliards pour le président de la République et 10 milliards, deux jours pour les parlementaires. C'est du grand n'importe quoi.
Où est-ce qu'on peut trouver Christian Chavagneux, c'est dit. Oui, bah. Ah, très. Vous écrivez à Bercy.
Pour faire des économies, c'est pas à Christian qu'il faut s'adresser.
On a les 20 milliards. Ouais. On a les 20 milliards.
Le CICE.
Comme l'a dit un grand patron qui a conseillé François Hollande, c'est quand même ce gouvernement est le seul à avoir réussi à passer une mesure à 20 milliards qui lui en coûte 40. Donc on a 20 milliards de à la fois CICE et de transformation du CICE en baisse de cotisation sociale. C'est 20 trop.
C'est honnêtement, en octobre dernier, il y a deux mois, on a dit au gouvernement, ne transformez pas le CICE en baisse de cotisation. En faisant ça, vous vous privez de 20 milliards d'euros. La comptabilité, c'est-à-dire les comptes qu'on envoie au titre de Maastricht, vous permet de garder ces 20 milliards d'euros. Si vous faites la transformation, ça vous coûte 20 milliards. Le gouvernement s'est privé tout seul, sans que personne ne lui demande rien, sans que l'Europe ne le lui demande, sans que les chefs d'entreprise ne le lui demandent, il s'est privé tout seul de 20 milliards d'euros. Bon, vous vous rendez compte? C'est inouï. C'est de la mauvaise gestion.
En plus, la réalité, c'est que les chefs d'entreprise ont quand même le nez sur le guidon et sur leur business. C'est une enquête de BPI qui dit ça. Bon, pourtant, BPI, ils sont plutôt très côté entreprise. 83% des chefs d'entreprise n'ont pas vraiment anticipé cette idée qu'ils allaient toucher deux fois l'année prochaine avec les baisses de charges et le crédit d'impôt. Donc, vous voyez, je pense qu'en plus, en termes d'anticipation, en se disant, oh là là, est-ce que les boîtes vont anticiper que moins de... Elles sont pas encore là-dedans.
Alors, on entend, elle touche pas. Emmanuel, parfois,
Emmanuel,
on entend
les chiffres. Vous savez très bien, elle touche pas deux fois. Le CICE, il est enregistré dans leur comptabilité en année N. Et les baisses de cotisations en année N plus 1. Il faut pas confondre la trésorerie et le résultat. Et je pense que là-dessus, vous serez d'accord.
C'est vrai.
Il nous reste 5 minutes, si vous voulez bien. Et ces 5 dernières minutes, on va les consacrer à la question des salaires à présent. J'aimerais savoir, parce qu'on sait, les Gilets jaunes, ils se sont d'abord tournés vers l'État pour dire qu'il manquait de justice fiscale, qu'il fallait ponctionner moins. Il y a aussi quand même la question, ils sont peu tournés vers les entreprises. C'est l'État maintenant qui se tourne vers les entreprises, peut-être, pour arriver à financer son plan. Est-ce qu'on a un problème de salaire, Christian Chavagneux,
en France ?
Non,
on n'a pas un problème de salaire, on a 3 problèmes de salaire. Je vous fais le film des salaires. Vous prenez le plan large, des années 60 à aujourd'hui. Dans les années 60, ce que les gens touchaient comme revenu, 75% c'était du salaire et un quart c'était les transferts sociaux. Aujourd'hui, c'est 60% du salaire et c'est 40% des transferts sociaux.
Qu'est-ce que vous appelez les transferts sociaux?
C'est-à-dire tout ce que vous touchez lorsque vous êtes malade, prestations, santé, etc. 15 points, c'est énorme, c'est un changement structurel. La protection sociale, c'est substituer aux revenus salariaux pour que les gens puissent vivre décemment. Il y a eu un déséquilibre total, les entreprises ont réussi à refiler aux impôts, puisque les prestations sociales, elles sont payées comment ? Elles sont payées à 60% par les ménages. Donc vous avez des ménages qui, pour leurs revenus, dépendent de plus en plus de prestations sociales, dont ils sont les premiers à payer, à financer.
Pourquoi ça s'est passé, ça ?
Parce qu'il y a eu un déséquilibre politique complet en défaveur des salariés et en faveur des entreprises et des comptes des entreprises.
C'est pour baisser le coût du travail, c'est l'attractivité, c'est la compétitivité.
Tout ça a joué. Ça, c'était le plan large des années 60 aujourd'hui. Maintenant, je prends le plan serré. L'INSEE calcule l'évolution du pouvoir d'achat par Français, parce qu'on parle du pouvoir d'achat en général. L'INSEE le calcule par Français, en tenant compte des revenus et ce qu'ils appellent le prix des dépenses de consommation, ce qui est plus ciblé que l'indice des prix à la consommation générale. Si c'était à 100 en 2010, en 2017, c'était à 100,7. 0,7 points sur 7 ans, 0,1 point par an, autant dire nul. Le pouvoir d'achat des revenus qu'on a, il a stagné. Donc ça, on comprend aussi la colère. Si maintenant je vous ai fait le plan large, le plan serré, maintenant je vous fais le plan américain, le plan intermédiaire, si je prends la même chose pour les grands patrons des FBS, du SBF 120, les 120 plus grands patrons, si je prends toujours 100 en 2010, eux en 2017, ils sont à 136. Donc le troisième problème, c'est l'inégalité salariale. Alors l'INSEE nous dit, si vous prenez les 10% les plus bas salaires, ils sont à moins de 1200 euros. Les 10% les plus hauts salaires, ils sont à 3006. Les 1% les plus riches dans les salaires sont à 8300, un écart de 1 à 7. Mais ça ne nous suffit pas, l'INSEE en général. On aimerait bien savoir, on aimerait bien connaître les inégalités à l'intérieur des entreprises. Et ça, il y a eu un amendement qui a été voté, qui a été refusé à l'Assemblée nationale pour qu'on ait un peu plus d'informations sur les inégalités salariales à l'intérieur des entreprises.
Non, mais là, on parle d'une centaine.
Porté.
Je sais bien.
On parle encore une fois d'une centaine de personnes en France qui relèvent pas du tout la réalité des 3000 des patrons du SBF 120. C'est une centaine de personnes en France. France, c'est pas la réalité.
Sur le problème des salaires,
il n'y a pas de problème de salaire en France. Au contraire, les salaires sont trop élevés en France.
Mais non, ils sont inégalitaires, Emmanuel.
Ils sont trop élevés macroéconomiquement. La France est le seul pays, je dis bien, dans lequel les salaires augmentent plus vite que la productivité, ce qui est un gage de destruction de notre économie à long terme. 5% de plus depuis 1995 que la productivité. Dans les pays de l'OCDE, c'est 15% de moins.
C'est mesuré par individu.
Le coût du travail, il est trop élevé au regard de la qualité des produits qu'on fabrique, donc pas de compétitivité. Notre salaire minimum, si vous prenez par rapport au niveau médian, il est aussi trop élevé. Et rappelons que le partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de la richesse créée, n'a jamais été aussi favorable au salaire, quelle que soit la façon dont vous le mesurez, depuis le milieu des années 80.
Donc le vrai problème
de la valeur ajoutée, c'est quoi ?
On est tous trop payés.
C'est pas que vous êtes trop payés, c'est qu'il y a un vrai problème de partage de la valeur ajoutée, non pas entre les salaires et les profits d'un côté, c'est-à-dire entre les salariés et les entreprises, il y a entre les grandes et les petites. C'est-à-dire qu'il y a les grandes entreprises en France qui s'accaparent une partie trop forte de la valeur ajoutée. Un indicateur très simple, quand vous regardez l'évolution des bénéfices En Allemagne et en France, c'est les PME, les grosses boîtes, ça évolue de la même façon. En France, ça bouge pas pour les grosses boîtes, c'est les PME la variable d'ajustement. Donc il y a un problème de relation, grosses boîtes, petites boîtes en France, les grosses boîtes mettent trop de pression sur les petites boîtes et ça accapare une trop grosse partie de la valeur ajoutée. Oui, c'est là que il y a un problème de répartition de la richesse.
Le dernier mot, il est pour Valérie Rabault.
Oui, alors sur ce point-là, et sur celui-là seulement, je suis d'accord avec Emmanuel Le Chypre. Je partage ce qu'a dit Christian Chavagneux sur le partage et l'évolution sur les salaires. Il y a un point que l'INSEE a souligné dans sa dernière étude, c'est aussi la modification des ménages. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent seules et donc du coup qui ont des coûts, les coûts structurels liés à la vie pour le ménage, qui augmentent. Et cette partie-là, c'est ce qui explique pour beaucoup, dans les dernières études de l'INSEE, le fait que cette baisse de pouvoir d'achat que vous signalez sur l'indicateur. Donc il y a ces deux effets qui rentrent en ligne de compte, la modification démographique, la manière dont on vit, et aussi cette évolution des salaires, et avec une dichotomie extrêmement importante entre très grandes et petites entreprises.
Et on va continuer d'en parler. Merci à vous, merci pour ce débat. Valérie Rabault d'avoir été notre invitée, Emmanuel Le Chypre de BFM Business et Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Le patron de Monoprix, le président de Monoprix, Régis Schultz, nous est coincé dans les embouteillages. Donc on ne sait pas s'il sera là, mais nous allons continuer à parler du pouvoir d'achat avec un reportage de Manuel Ruffez. On prend du recul, on sort du studio. Manuel a tendu son micro à Olivier.
Comment est-ce que vous voulez qu'on vous appelle ?
Olivier, ça sera très bien.
Vous voulez pas donner votre nom de famille, vous voulez pas qu'on vous reconnaisse peut-être?
Pour être honnête, je préfère être anonyme parce que finalement, moi je suis personne. Je suis qu'un parmi tant d'autres et voilà, j'ai pas envie de prendre plus de place que qui que ce soit.
Vous avez un métier?
Ouais, je suis chef d'équipe sécurité et incendie. Aujourd'hui, j'ai reçu mon salaire hier, je touche 1 200 €.
Donc vous avez ce salaire et plein de dépenses qui sont inhérentes, on appelle ça les dépenses contraintes. Par exemple, vous payez quoi tous les mois?
Bah, il y a le loyer.
Et vous payez combien de loyer?
Je paye 750 € par mois.
Et donc, avec un salaire, avec 1 200 € par mois, on s'en sort pas?
Ben non, parce qu'au final, si je regarde, je paye ma moitié, ça fait 375 €. Je paye mon abonnement Internet, ça doit être quelque chose comme 34 ou 39 €. Je paye mon téléphone, ça doit me coûter dans les 50 €. Je paye l'assurance de la maison, avec l'assurance vie, je dois en avoir pour 50 €. Je paye l'assurance de la voiture, 50 €. Maintenant, depuis début janvier, on paye le stationnement à Reny-sous-Bois. Alors quand je me suis installé ici, j'ai justement fait attention que je puisse garer mon véhicule sans problème. Et on peut plus, on est étouffé. Moi, je vois, je vais vous dire sincèrement, là, tous les mois, une fois que j'ai payé tout ce que j'ai à payer, je fume des cigarettes, je prends juste 2 cartouches pour le mois, il me reste 190 €. Et je dois payer ma nourriture, l'essence et les éventuelles sorties ou à côté. Donc je m'en sors pas. Tous les mois, peut-être même pas 2 semaines après que la paye soit passée, je dois demander à ma compagne si elle peut me dépanner 10 €. Ou... C'est gênant et puis c'est pas possible. Là, on arrive au mois de décembre, j'ai mon fils, je voudrais lui faire un cadeau. Mais là, actuellement, je sais même pas si je vais réussir à pouvoir lui faire un cadeau. On nous laisse pas assez pour vivre. Et mon objectif quand j'étais jeune, c'était voilà, mon père il gagne 1 500, 1 600, l'équivalent en euros d'aujourd'hui, 1 600 €. Donc mon objectif c'était de gagner autant puisque lui il arrivait à faire vivre une famille de 3 enfants et il avait fait une maison, il avait surélevé. Donc pour moi je me disais voilà, il faut que j'arrive au moins à un métier qui me donne ce salaire.
Vous avez perdu par rapport à votre père.
Le niveau de vie, il est totalement différent. C'est aberrant. Comment se fait-il qu'en ayant un salaire qui est quand même au-dessus du SMIC, même si c'est pas mirobolant, on n'ait pas de quoi vivre, on n'ait pas de quoi épargner, on n'ait pas de quoi se construire l'avenir.
La crise, elle vient de loin, c'est vrai. Olivier vient de nous le démontrer, les dépenses contraintes, c'est-à-dire les factures auxquelles on ne peut pas échapper, elles sont de plus en plus pesantes. C'est le premier phénomène. Le deuxième, qui s'est accentué depuis 10 ans, c'est l'importance prise par la TVA, la CSG, la taxe carbone, on vient d'en parler. C'est ce qu'on appelle la fiscalité indirecte. Et dans les deux cas, les plus modestes, comme Olivier, sont ceux qui sont le plus percutés. Le sentiment d'être étouffé, dit-il. Il y a aussi ce sentiment d'être traité injustement. Pour comprendre, notre reporter Manuel Ruffez a poussé la porte de l'Observatoire français des conjonctures économiques. On est dans le 14e arrondissement de Paris, sur la belle place de Catalogne.
Je suis Pierre Madec, je suis économiste à l'OFCE.
L'impression de payer de plus en plus et de recevoir de moins en moins, on l'observe un petit peu dans la statistique publique, c'est-à-dire que les choix qui ont été faits de baisser la dépense publique, de baisser un certain nombre d'accès aux services publics notamment, quand vous fermez un hôpital, quand vous fermez une école, quand vous arrêtez d'investir dans les petites lignes de chemin de fer, tout ça c'est de la baisse de la dépense publique, c'est vu plutôt d'un bon œil au niveau macroéconomique, puisque ça permet en même temps de faire baisser un certain nombre d'impôts, mais si les ménages qui sont concernés par ces baisses de services publics en même temps voient leurs charges augmenter, leur fiscalité indirecte leur augmenter, leurs dépenses contraintes augmenter, vous avez évidemment dans le même temps un budget à la fin du mois qui baisse, mais des services publics qui ne sont plus là, et donc vous avez l'impression de plus en avoir pour votre argent.
Il y a une fracture qui est en train de se créer au sein de la classe moyenne ?
Il y a une fracture qui est en train de se créer au sein de la classe moyenne, parce qu'en réalité, pour des gens qui ont le même revenu, le reste à vivre à la fin du mois n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que si vous êtes retraité, que vous avez acheté il y a très longtemps, que vous avez fini de rembourser votre emprunt par exemple, votre charge en logement, elle va être relativement faible. Vos dépenses contraintes, elles sont relativement faibles. Si en plus vous habitez en ville et que vous n'avez pas besoin de vous déplacer en voiture, et que vous êtes dans une commune où il y a une taxe foncière, une taxe d'habitation très faible, vous voyez que vous avez un reste à vivre qui peut être élevé. Par contre, si vous avez exactement le même revenu que ce couple, par exemple, de retraités que je viens de décrire, mais que vous vivez dans une commune rurale, que vous êtes endetté pour acheter votre logement, que vous apercevez que la valeur de votre logement est en train de baisser, que en même temps vous subissez l'augmentation des prix du carburant, l'augmentation de la fiscalité locale, et que en même temps vous avez une baisse d'un certain nombre de services publics, on voit bien que pour deux ménages qui ont un niveau de revenu équivalent, vous avez des situations qui ne sont pas du tout équivalentes, et donc ça crée une cassure, une fracture au sein de populations de ménages qu'on pense être relativement homogènes.
Est-ce qu'elles vont avoir un impact, ces mesures annoncées par le gouvernement, est-ce qu'on va avoir un impact sur le revenu des Français, sur le pouvoir d'achat des Français? On est boulevard Jourdan, là dans le 14e arrondissement à Paris, on est devant les locaux de l'IPP, l'Institut des politiques publiques. C'est leur travail d'évaluer justement les politiques publiques. On va aller leur poser la question.
Je m'appelle Brice Fabre et je suis économiste à l'Institut des politiques publiques.
On va essayer avec vous de porter un regard sur les annonces récentes qui ont été faites par le gouvernement, en précisant tout de suite que c'est un peu tôt pour être chiffré. Vous n'avez pas chiffré encore ça?
Non, nous n'avons pas encore chiffré. Après, on peut avoir une idée qualitative, sommaire, des effets potentiels des annonces qui ont été faites lundi. Ce à quoi on peut s'attendre pour ce qui est donc de la hausse de 100 euros pour un SMIC. Donc là, ce que cette mesure peut engendrer, c'est pas de changement pour les 20% des ménages les moins aisés, mais par contre, une hausse des gains ou une baisse des pertes pour les 20% des ménages suivants.
C'est une hausse des gains ou c'est une baisse des pertes ?
On peut avoir potentiellement des gains. Pour vous donner un ordre de grandeur, une personne qui aujourd'hui touche un SMIC, sa prime d'activité est de 150 euros. Donc là, ces mesures consisteront à faire passer cette prime de 150 euros à 230 euros, grosso modo. Donc en proportion du revenu, ça n'est quand même pas négligeable. Ça peut avoir un impact.
L'autre mesure, c'est la suppression de la CSG pour les retraités avec des revenus, des pensions inférieures à 2000 euros. Ça aussi, ça peut avoir un impact.
Et donc là, il s'agit d'annuler la hausse du taux de CSG pour les retraités ayant une pension de retraite inférieure à 2000 euros. Donc là, parmi les retraités, initialement, on n'a que des pertes. Donc là, on aurait une baisse des pertes. Pas de gain, à mon sens. Donc on verra, mais à mon sens, pas de gain. Donc, mais une baisse des pertes pour les retraités situés au milieu de la distribution des revenus. C'est ce à quoi on peut s'attendre pour ce qui est de cette mesure.
Les heures supplémentaires, ça peut apporter un gain de pouvoir d'achat?
L'exonération des heures supplémentaires mise en place par sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy ont déjà été évaluées. Le résultat, c'est qu'au final, on a une manipulation, en fait, on a une substitution, grosso modo, des revenus, du revenu fixe vers les heures supplémentaires. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée dans la mesure où la frontière entre salaire fixe et heures supplémentaires peut être fortement manipulable.
L'inconnu encore, c'est que ces mesures vont coûter environ 10 milliards d'euros à l'État. Comment ça va être financé? Est-ce que ça va se traduire par une hausse de la fiscalité? C'est ça l'inconnu?
Alors, ça peut temporairement être financé par du déficit pour l'année courante. Après, forcément, c'est aussi tout l'enjeu. C'est à quoi, à terme, quelle sera in fine la source de financement? Et en fonction de quel impôt et des modifications de prélèvements obligatoires ou de dépenses que l'on décidera pour compenser ces dépenses supplémentaires, en fonction de ces décisions-là, eh bien, ça peut vraiment affecter les effets redistributifs auxquels on peut s'attendre que je venais d'évoquer tout à l'heure.
Je sais que c'est très difficile à faire comme exercice. Est-ce que, globalement, de ces annonces, est-ce qu'on peut dire bon, pas bon pour le pouvoir d'achat des Français?
Pour le pouvoir d'achat instantanément, vraiment à court terme, oui. Enfin, pour une certaine catégorie de Français, oui. Pour les catégories que je mentionnais tout à l'heure, mécaniquement, vous allez avoir des effets positifs.
Le pouvoir d'achat des Français, d'où l'on vient et où l'on va, c'était le reportage de Manuel Ruffez.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et on continue d'explorer ce dossier du pouvoir d'achat avec le président de Monoprix, qui donc n'a pas réussi à venir jusqu'à notre studio. Bonjour Régis Schulz.
Bonjour, de toutes mes excuses.
Bah, pas de problème, vous êtes avec nous par téléphone. Coincé, c'est difficile, donc bah, vous pouvez nous dire la mobilisation, c'est ça, c'est des gilets jaunes, c'est ce qui vous bloque en ce moment ?
Non, c'est plus que un certain nombre d'artères ont été bloquées à la circulation et donc c'était très compliqué de passer, voilà. Mais s'il y avait, c'était pas le nombre de personnes, c'était plus les blocages préventifs qui ont été faits par les autorités sur les différentes artères, voilà.
Alors vous êtes donc le président de Monoprix, plus de 700 magasins, il y en a en gros un tiers à Paris, un tiers en Île-de-France et un tiers en région, il y en a sur les Champs-Élysées. Il y a un Monoprix dans le centre de Strasbourg par exemple. Est-ce que ce samedi tous vos magasins sont ouverts ?
Ben, ce samedi, on a décidé d'ouvrir tous nos magasins avec bien évidemment un certain nombre de dispositions qui sont faites pour protéger nos salariés qui sont notre priorité et nos clients. Donc bien évidemment, on a limité le nombre d'ouvertures de nos magasins, c'est-à-dire les zones d'entrée. On a un vigile à chaque entrée et prêt à fermer le magasin et si y a le moindre risque pour la sécurité de nos clients et de nos équipes.
Ce matin, sur France Inter, on a entendu beaucoup de commerçants qui ont expliqué l'impact que ça avait sur eux, ce mouvement des gilets jaunes, sur la consommation. Pour vous, quel est le bilan de ces 4 semaines ?
Ben c'est vrai que c'est un impact, en particulier bien évidemment sur les jours concernés, les samedis pour nous, parce que nous sommes très présents à Paris. C'est aussi, je pense, un gros impact sur le tourisme, qui représente une part significative de l'activité dans Paris. Hein. On a beaucoup d'annulations de touristes et on a fait du mal à l'image de la France au travers de ça. Et un peu comme à l'instar des événements, des attentats que nous avions eus, nous avons la même baisse de fréquentation.
C'est-à-dire si vous deviez donner un chiffre, on en est où pour Monoprix, là ?
Le chiffre le plus évident, c'est le nombre d'annulations et de réservations d'hôtels qui est à moins 30, moins 40.
Non, mais sur vos ventes, Régis Schulz.
Ah, sur nos ventes, sachant qu'on vend de l'alimentaire, c'est surtout sur le non-alimentaire qui a un gros impact, plus que sur l'alimentaire, parce que c'est ces dépenses qui sont touchées, puis qui sont touchées par l'impact sur le moral des Français. Après, c'est difficile à chiffrer parce que vous partez sur un théorique. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a 1 milliard d'euros qui est donné par la FCD, qui correspond à l'impact global sur la
Fédération
française.
Régis Schulz, il y a une revendication sur le pouvoir d'achat, il y a eu des annonces. Vous avez une population, 22 000 collaborateurs, je crois. Il y a du personnel en caisse, ce sont donc souvent des femmes avec des petits salaires. Est-ce que vous allez distribuer une prime exceptionnelle ?
Ben, on veut s'inscrire dans ce mouvement qui a été donné par le président Macron. Donc on est à l'étude, tout le groupe Casino souhaite, et c'est la volonté de Jean-Charles Naouri, de pouvoir distribuer une prime. C'est vrai que c'est difficile parce qu'au même moment on a notre activité qui subit l'impact, mais on veut s'inscrire là-dedans, dans ce mouvement. Et on fera quelque chose. On attend d'avoir les précisions exactes du dispositif pour se positionner de façon précise.
100 euros de plus au niveau du SMIC, est-ce que ça a touché vos salariés, ça les intéresse ? Quelles ont été les réactions ?
Ben, je pense que tout ce qui est fait pour redonner du pouvoir d'achat intéresse nos salariés. Et moi, je dirais de façon globale, et c'est intéressant dans les différents reportages que vous avez que vous avez passé à l'antenne, je pense qu'il y a, un débat qu'on n'a pas en France, ça a été la course au prix bas qui était censée créer du pouvoir d'achat, qui a fait le contraire. Et moi, j'invite vraiment à avoir cette responsabilité de tous par rapport à justement payer les bons prix et pouvoir mettre de la valeur. Aujourd'hui, on a fait une économie avec en dévalorisant un certain nombre de choses, et il faut qu'on retrouve de la valorisation des produits, de la valorisation des producteurs, de la valorisation des commerçants, parce que c'est cette capacité à créer de la valeur qui créera du pouvoir d'achat au travers des salaires et au travers de redonner des perspectives d'avenir à l'ensemble de nos salariés. Donc
Régis
c'est vraiment là où...
D'un mot justement, on a une ordonnance là de la loi alimentation pour aider les agriculteurs à mieux vivre. C'est la fin de certaines promotions. D'un mot, est-ce que les prix vont augmenter tout simplement à partir de 2019?
Et je pense que surtout ce qui va c'est la valeur qu'on va redonner aux agriculteurs, et c'est celle-là qui est créatrice de pouvoir d'achat. C'est pas les 0,5 cents sur le prix du lait qui crée du pouvoir d'achat, c'est les salaires qu'on peut distribuer à l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, et à l'ensemble de l'économie. Et je pense que c'est ça, que le vrai débat du pouvoir d'achat, c'est le débat du salaire et pas le débat du prix bas.
Régis Schulz, le président de l'enseigne Monoprix, eh bien merci d'avoir été sur France Inter, même par téléphone.
Encore toutes mes excuses.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Sandrine Foulon, Pauline vous a écrit. Elle ne veut pas prendre la mutuelle que lui propose son employeur. A-t-elle le droit de refuser ?
Pauline, même si vous trouvez que la mutuelle d'à côté offre de meilleures garanties, vous êtes tenue d'adhérer à la complémentaire santé de votre employeur. Depuis 3 ans, c'est obligatoire. Toutes les entreprises, petites et grandes, doivent couvrir leurs salariés et prendre en charge au moins la moitié de la cotisation. Vous pouvez quand même refuser dans certains cas. Par exemple, si vous êtes couverte par la mutuelle de votre conjoint. Mais il faut que son assurance santé spécifie que l'adhésion des membres de la famille est obligatoire. Vous pourrez alors faire une demande de dispense écrite et rester couverte par cette mutuelle jusqu'à sa date d'échéance. Ensuite, vous devrez basculer sur la mutuelle de votre entreprise. Des demandes de dispense sont également possibles pour toutes celles et ceux qui ont plusieurs employeurs et qui sont déjà couverts par l'un d'entre eux, pour les salariés en CDD court, pour les travailleurs à temps très partiel ou qui sont en apprentissage. Pareil pour les bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ou de la CMUC, la couverture maladie universelle complémentaire.
Mais Sandrine, est-ce que ça marche ? Est-ce que les salariés sont tous couverts ?
Avant la mise en place de la loi, il n'y avait que la moitié des établissements qui proposaient une complémentaire santé. L'an dernier, c'était le cas de 84% des entreprises, représentant 96% des salariés. Si l'on tient compte des demandes de dérogation, Pauline, ça veut dire que 82% des salariés sont couverts par la mutuelle de leur entreprise, contre seulement 60% il y a 9 ans. C'est une belle progression, surtout pour les salariés des petites entreprises, qui étaient moins couverts que ceux des grands groupes. Côté financier, les employeurs prennent en charge 58% de la prime en moyenne. C'est plus que ce que prévoit la loi. Et c'est pas mal quand on vient d'apprendre que les mutuelles vont augmenter leurs tarifs de 2% par an. Mais ces chiffres du ministère de la Santé ne disent pas combien de salariés sont couverts par des contrats haut de gamme ou prévoyant au contraire des remboursements à minima. Pour ça, Pauline, si vous souhaitez de meilleures options, la solution reste toujours la même, mettre la main à la poche.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.